L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Il est 22h15, ce 14 avril 1865. Nous sommes au cœur de la capitale des États-Unis d'Amérique, la grande et belle Washington, D.C. Le théâtre Ford fait salle comble ce soir. Alors que la chaleur étouffante et le brouhaha provoqué par la pièce « Mon cousin d'Amérique » sont à leur paroxysme, une ombre s'avance vers la tenture de la loge présidentielle. Abraham Lincoln est là, derrière. Il s'amuse. Dans quelques instants, au cœur de la scène 2 de l'acte 3, il s'écroulera, victime d'une balle de revolver qui viendra se loger à la base de sa nuque, en haut de sa colonne vertébrale. Dans quelques instants, l'Amérique tout entière, endeuillée par la mort tragique et inopinée de son 16e président, va basculer dans l'horreur. 22h15, l'heure âge de mon histoire. John Wilkes Booth est un homme intelligent. Acteur de renom, il est même une petite célébrité de la capitale des tout jeunes États-Unis. Pourtant, ce soir, il se prépare à commettre l'irréparable sur la personne du chef de l'État, qui plus est. Il est 21h et Booth, chevauchant un petit cheval frêle, se présente à l'entrée des artistes. Rien d'inhabituel. Le théâtre Ford est son deuxième jardin. Sa longue chevelure bouclée lui tombe aux épaules. Sa moustache est retroussée à la manière des grands soirs. Il a la tête haute et est vêtu d'un costume bon marché taillé dans le sud. Oui, c'est un partisan des Confédérés. Et oui, il déteste ceux qui, il y a peu, étaient encore des esclaves. Accorder des libertés aux Noirs, c'est intolérable pour lui. Ses motivations sont claires, explicites. Ce président n'est pas le sien. Il descend de cheval et enfonce une de ses Santiago directement dans la boue. Il rouspète et manque de blesser sa monture à la bouche en tirant trop fort sur la bride. Le petit cheval hennit, se cabre et entraîne le non moins petit cavalier dans une embardée. Il s'empresse de filer la bête revêche à un machiniste qu'il connaît bien. Ce dernier remarque ses traits fatigués, les valises qu'il porte sous les yeux. C'est un acteur qui, disons-le, malgré sa célébrité, est en perte de vitesse. Il fait fi des moqueries de l'employé et entre dans le théâtre. Dans sa poche, il y a un revolver et un couteau de chasse assez long et tranchant pour vous égorger un cervidé. À la manière d'un pirate, à peine plus soigné en tous les cas, il monte l'escalier principal. Il se dirige vers la loge présidentielle. Il connaît tous les recoins de ce royaume des plaisirs des plus fortunés de Washington. Là, il croise un collègue rencontré sur un ancien projet. Ailleurs, un habitué des lieux. Chaque fois, il salue avec empressement mais diligence. Ne surtout pas attirer l'attention, paraître le plus normal possible. Sa redingote noire le démange. Son nœud papillon ne tient pas en place. Il piétine, hésite à entrer dans l'aile réservée aux invités de marque. Tremblotant, il se garde bien de faire le moindre geste de peur de paraître suspect. Booth se contente de sourire, de sortir de sa poche de gilet gris cette montre à gousset héritée de son père. Il est 21h30. La pièce a déjà commencé, mais il attend la fin du premier acte pour se rapprocher. Il la connaît par cœur, il pourra la réciter, remplacer au pied levé n'importe quel acteur défaillant. Mais pas ce soir. Certainement plus jamais d'ailleurs. Le costume de régicide ne se porte généralement que peu de temps, du moins vivant. Ça y est. Fin du premier acte. Quelques spectateurs, hauts de forme sur la tête et visage poudré, ressortent. Certains ont des cannes à la main, claudiques. Sans doute des officiers yankees vétérans d'une guerre qu'ils ont gagnée. Lui, le Sud, accroché au cœur, il pourrait cracher sur leur passage. Malheur aux vaincus, avait un jour hurlé un chef barbare aux Romains, estomaqué, au moment de payer le butin de la défaite. Sans doute vivait-il à cet instant la même chose que ses illustres ancêtres. Contrairement à eux, lui refusait de l'accepter. Les provocations de ce président depuis la victoire de l'Union, c'était tout bonnement insupportable. Il considère ça comme des provocations. Oh, il sait bien qu'ils sont minoritaires à penser comme lui. La guerre fatigue les esprits, même les plus rebelles. Eh bien, pas le sien. Ses idées sont bien en place. La barbe épaisse qui se dessine sous sa moustache est loin de lui donner un air de la haute ce soir, et certains regards dédaigneux n'échappent pas à son radar. Rigolez seulement. Bourgeois de d'ici, demain, vous vous réveillerez avec la gueule de bois. Booth est perturbé. C'est un euphémisme de le dire. Il se gratte le cuir chevelu, fait les 100 pas comme un lion dans une cage que personne ne saurait voir. Plusieurs fois, des hôtesses au ton suave et mielleux viennent le voir, lui demandent si on peut l'aider. Il les rabroue, mais se rend bien vite compte qu'ici, il est trop visible. Alors que le deuxième acte commence, il se décide à se rapprocher de sa proie. Le voilà dans le couloir, la main sur son couteau, prêt à neutraliser la sécurité présidentielle. Il a l'heureuse surprise de voir que le garde du corps de Lincoln n'est pas devant la porte qui donne sur l'antichambre. Quel heureux hasard, se dit-il, et voilà qu'il fait le pied de grue devant la porte. Il attend, en silence, en communion avec ses actes et avec ce qu'il s'apprête à déclencher. Après moi, le déluge. Rien à faire de ces Yankees. L'esprit rivé sur le texte déclamé par cet acteur qu'il ne peut pas supporter. Il tapote du pied. À l'intérieur, personne ne se doute de rien. Le président, sa femme et le couple qui les accompagne écoutent sagement. Au dehors, la transpiration a laissé la place à l'angoisse. Les mains moites enfoncées dans cette redingote de mauvaise qualité, Booth glisse ses doigts le long de la détente. Le petit revolver est prêt à bondir. Lui aussi. Sur la scène, les acteurs terminent la première scène du troisième acte. L'horloge du destin, elle, tourne de manière inéluctable, ajuste ses pions et, minute après minute, poursuit son infernale partie d'échecs. Booth attend une réplique bien particulière qui fait toujours réagir l'assistance par des cris et des rires. Si elle est bien jouée, du moins. Il écoute, perçoit que c'est bientôt le moment. Quelques secondes encore. Oui, maintenant. L'acteur sur scène scande. Quoi, moi ? Je ne connais pas les manières de la bonne société ? Mais je crois bien que j'en connais assez pour vous dire vos quatre vérités, ma vieille, espèce de vieille croqueuse d'hommes manipulatrice. Booth se précipite dans l'antichambre, arrache la tenture rouge qui le sépare du balcon. Il dégaine sa petite arme à feu, se retrouve tout près de Lincoln, qui est de dos, là, juste devant lui. Les invités du couple, eux, le regardent furtivement. L'acteur s'approche d'un pas, pose son canon froid sur la nuque présidentielle. Le reste, lui, appartient à l'histoire. Notre histoire commence lors d'une soirée d'automne, le 9 novembre 1863. Il est 22h. Et depuis déjà près d'une heure sur scène, John Wilkes Booth se donne à fond. Il interprète Raphaël dans la pièce « Cœur de marbre ». C'est la première fois qu'il joue ce rôle, mais il lui va comme un gant. Sa moustache finement taillée, rasée de près au niveau du menton et des joues, quelques boucles glissent le long de ses oreilles. Sa prestance prend toute la place, sa colère aussi. Depuis 2 ans, Abraham Lincoln a entamé son premier mandat. En bon confédéré, Booth accepte la sentence du peuple mais ne se range pas du côté de ses partisans. La guerre est toujours en cours et il espère une victoire du Sud. Il avait voulu la faire, cette guerre, mais il s'était ravisé. Une promesse faite à sa mère. Depuis le début de la pièce, il garde un œil en coin vers le côté ouest de la scène. Pour la première fois depuis longtemps, 2 personnes sont assises dans la loge présidentielle. Son ennemi est là, tout près. Abraham Lincoln et sa femme se tiennent au bord du balcon et le regardent attentivement. Le président ne connaît pas ce gamin du Maryland. Les 2 premiers actes se déroulent à merveille. Et à l'aube de la 4e scène du dernier acte, Booth profite d'une tirade de son personnage, pleine de sous-entendus, pour pointer du doigt le président du pays. Personne n'y trouve alors rien à redire. Jeu d'acteur, présence d'une célébrité, Même Lincoln cache un sourire derrière son air grave. Pourtant, dans les yeux de celui qui joue parfaitement son rôle ce soir-là se cache un soupçon de haine. Une braise, rien de plus. Seulement un tout petit départ d'incendie. Mais tel un feu de forêt lors d'une matinée caniculaire d'été sur la côte ouest, il va bientôt s'étendre, grandir et devenir incontrôlable. L'année suivante, 1864, semble être un tournant décisif dans la psychologie du futur tueur. La guerre de sécession, véritable boucherie qui, déjà, laisse une tache indélébile sur le drapeau US, tourne à la faveur du Nord. Laissez-moi vous expliquer ce qu'il en est. Depuis avril 1861, les combats font rage. Au mois de novembre précédent, l'élection à la présidence de Lincoln a été vécue par les États du Sud comme une véritable déclaration de guerre. Dans son programme, le candidat républicain annonce vouloir mettre un terme à l'esclavage. Pour les propriétaires terriens des États du Sud, qui comptent sur cette main-d'œuvre gratuite, c'est une bombe qui explose dans leurs mains. La seule issue, c'est la guerre. Et voilà que le tout jeune pays qui a gagné son indépendance il y a un siècle à peine face à l'Angleterre se déchire en deux. S'en suivent 3 ans indécis, où les deux camps se rendent coup pour coup. D'un côté, Ulysses S. Grant pour l'Union, de l'autre, Robert E. Lee, deux généraux géniaux, aux tactiques et aux armées bien différentes. Mais de chaque côté, ce sont des Américains qui meurent et qui souillent de leur sang le sol du pays. En 1863, 3 jours de combats indescriptibles à Gettysburg prennent la vie à plus de 10 000 personnes et en blessent plus de 35 000 autres. Cette boucherie, équivalente à celle de Waterloo chez nous, est la bataille la plus meurtrière sur le sol américain. Les confédérés, au bout de l'effort, doivent se déclarer vaincus et se replient. Plus jamais, ils n'arriveront à reprendre le dessus. Coupés en deux, la vallée du Mississippi aux mains du Nord, l'armée du Sud est en grande difficulté à l'aube de l'année 1864. Afin d'enfoncer le clou, et alors que c'était la coutume jusqu'alors, le Nord décide d'interrompre l'échange de prisonniers. Pour le Sud, qui ne récupère pas les siens, c'est la catastrophe. On manque d'hommes qui peuvent se battre, les rangs se délitent à chaque combat. C'est à ce moment que le personnage principal de notre heure H sort du bois. L'écume aux lèvres, il enrage. Le doigt sur la crosse de son pistolet, il cherche une solution. Et il ne va pas tarder à la trouver. Si l'Union refuse des échanges de prisonniers, combien serait-il en revanche prêt à en libérer en échange d'un homme ? Après tout, le seul qui vaudrait la peine d'être échangé serait Abraham Lincoln. Le nouveau président des États-Unis, oui, ça c'est un gros poisson. Et c'est faire une pierre de coups. Booth pourrait ainsi assouvir sa vengeance envers cet homme qui incarne un projet politique aux antipodes du sien. Notre homme échafaude donc un plan pour enlever Mr. President. Rien que ça. Bien entendu, il ne peut y arriver seul, et il le sait. Il s'entoure donc de quelques comparses. L'idée germe dans son esprit et bientôt, les grandes lignes de son plan sont prêtes. Le principe est de kidnapper Lincoln dans sa résidence d'été, située à 5 km de la Maison-Blanche, et de rejoindre Richmond, la capitale du Sud, par le fleuve Potomac. Pour ce faire, 2 de ses plus proches amis vont l'aider. Tous 2 sont des anciens de l'armée. Un réformé, l'autre démobilisé en 1862. Tous 2 sont des sympathisants du Sud. L'été 64 est le moment où Booth contacte 10 de pro-confédérés afin de constituer une équipe complémentaire. Cela ne lui semble pas assez efficace et en octobre, il se rend à Montréal. Je ne sais pas pourquoi exactement, mais il y reste 10 jours. Il est établi qu'il y rencontre d'autres personnes afin d'ourdir le complot. Certains chercheurs, depuis, sont persuadés que cette tentative d'enlèvement, puis celle d'assassinat, ont été échafaudées par le gouvernement confédéré et que celui-ci aurait donc été au courant. Rien ne permet cependant de le prouver en l'état actuel de nos connaissances. En tout cas, une petite bande de 6 ou 7 personnes se monte et se tient prête. Les détails sont peaufinés. Tout semble prêt pour passer à l'action. Mais ça, c'était avant le 2e coup de massue. Lincoln est réélu pour un 2e mandat. Pour Booth, c'est une catastrophe. En mars 1865, il décide de se rendre à Washington afin d'assister au discours d'investiture. Le 4 mars, il est aux premières loges. Il a été invité, il faut le dire. Le jeune homme, devenu barbu et un peu hirsute, du moins beaucoup plus que l'année d'avant, a une fiancée secrète. Elle s'appelle Lucie, et elle lui a obtenu 2 places pour ce moment fort de l'histoire américaine. Elle apprécie le spectacle, malgré son aversion pour l'homme. La fonction, elle, est évidemment sacrée. Tandis que le président pose sa main sur la Bible, Booth bouillonne. L'enlèvement est pour bientôt. Même si la réélection a mis du plomb dans l'aile à son projet, tout est en place pour que les choses réussissent. Le 17 mars, au dernier moment, son équipe et lui apprennent que le président se rendra près de la maison des soldats à une représentation théâtrale. C'est le branle-bas de combat. Booth et ses équipiers décident d'intercepter le convoi présidentiel alors qu'il est en chemin. Ils arrivent au grand galop sur les lieux, assez en avance, pour tout préparer et se mettre en embuscade. Leur venue. Personne ne se pointe, pas un chat. Booth garde son calme, attend 1 heure, puis 2, rien. Rien, l'opération est un échec. En réalité, ironie de l'histoire, Lincoln a annulé ses plans au tout dernier instant, préférant se rendre à une réception donnée dans le cœur de la ville, au National Hotel. Et savez-vous qui loge dans une chambre de cet hôtel, pile au-dessus du salon dans lequel se donne ce fameux cocktail? Je vous le donne en 1000. John Wilkes Booth, lui-même.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte l'heure H du premier meurtre d'un président des États-Unis d'Amérique, celui d'Abraham Lincoln. Figure du Parti républicain, il est l'homme qui a aboli l'esclavage dans le pays. Des positions si radicales ne peuvent que provoquer rivalités, conflits, et parfois même des tentatives de nuire à l'autre. En plein cœur d'un conflit armé déchirant le pays, un homme, Booth, et sa clique de pro-confédérés décident de s'en prendre personnellement au président. Ils veulent l'enlever pour changer le cours de la guerre. La réélection de sa cible, son investiture, tout ça, Booth le suit de très près. Alors qu'il place des espoirs encore grands dans une victoire du Sud, le mois d'avril 1865 sera pour lui l'occasion d'accélérer la mise en place de son plan. De le modifier aussi. Nous sommes le 11 avril 1865. Il est 14 heures. À l'extérieur de la Maison Blanche, une estrade, faite de planches pour la plupart vermoulues, vient d'être montée à la hâte. Le président, alors que rien n'était programmé, souhaite prendre la parole. Booth, informé par un de ses contacts, est déjà aux premières loges. Il attend, en mâchant un sordide tabac à chiquier de qualité peu enviable. Oh, il souhaite toujours faire enlever le président, mais depuis la veille, son plan a changé. Et si finalement, la solution était plus extrême? Non, envisager cette issue-là, c'est se vouer à la damnation. Et pourtant, notre homme à la barbe fleurie a de sordides idées en tête. Comprenez bien, la veille n'a pas été une journée comme les autres. Le général Lee, le chef suprême des troupes sudistes, vient d'abandonner le village d'Appomattox. Une simple manœuvre tactique, allez-vous me dire? Eh bien non. Un véritable aveu d'échec. Et tout le pays, même ses plus fervents partisans, l'ont compris. Le Sud va perdre la guerre. De colère, rentré à l'hôtel, Booth lance que sa carrière d'acteur, c'est de l'histoire ancienne. Il ne va plus jamais monter sur scène. Si, en fait, à bien y réfléchir, à une seule condition. Celle d'interpréter un rôle dans Venise sauvée. Personne n'a compris l'allusion. Cette pièce, elle a pour thème une conspiration en vue d'un assassinat. Vingt minutes après son arrivée, entouré de quelques journalistes et d'une dizaine de soldats, Lincoln monte à la tribune. Il éclaircit sa voix, ajuste son haut de forme. Simulacre ridicule pour Booth. Mais pas pour les autres qui sont en pamoison tous pendus aux lèvres du président. Et ce jour-là, il surprend tout le monde, de manière totalement inattendue. Il se déclare, tenez-vous bien, ouvert à la perspective d'accorder le droit de vote aux anciens esclaves. Ben, aujourd'hui, cela vous paraît sans doute d'une justice absolue, mais rendez-vous compte que la condition des Afro-Américains vient de changer du tout au tout au pays de l'oncle Sam. Déjà, ils sont devenus humains en obtenant leur liberté. Ils ne sont plus considérés comme des animaux. Alors, leur donner le droit de vote? Mais pour certains, cette mesure est le franchissement d'une ligne blanche poussant Lincoln dans les bras de la faucheuse. Son bras armé, ce sera Booth. Vert de rage, l'acteur n'a plus aucune limite qui l'empêche de sauter le pas. Et il faut tuer cet homme totalement incontrôlable au sujet des droits humains fondamentaux des Afro-Américains. Plus de sentiment de culpabilité, plus de volonté de rédemption. Non. Juste un sentiment d'urgence vitale absolue. Il doit agir vite. Dans son journal, il note le soir même. Notre cause est presque perdue. Il faut faire une chose décisive et grande. À des partisans, il va plus loin. Maintenant, par Dieu, je vais le liquider. C'est le dernier discours qu'il fera. Il ne croyait pas si bien dire. Les plans changent, mais les hommes restent les mêmes. Pas question de frapper seulement le président. Il faut aller plus loin, envoyer un message fort. Booth est persuadé que c'est le général en chef des armées de l'Union, Grant, qui sera dans la tribune avec Lincoln, au théâtre Ford, le 14 avril 65. Il faut les tuer tous les deux. Il apprend cette nouvelle en allant retirer son courrier au théâtre. Mais elle est erronée. Grant ne viendra pas. Il est retenu. Le président alors propose à Henry Rathbone, un major de l'armée de l'Union, et sa fiancée, fille de sénateur. Tous deux acceptent et seront donc au cœur du brasier dans quelques heures. Booth a l'idée de lancer trois attaques. Une contre Lincoln et Grant, celle-là il s'en occupe. Une deuxième va viser le secrétaire d'État, William Seward. La dernière enfin est pour le vice-président, Andrew Johnson. Le but? Renverser le système tout entier. Fait entrer la terreur dans le foyer des nordistes. À 16h, tout est prêt. Bientôt, les piliers de la nation vont s'étouffer dans leur sang. Les événements se dérouleront de manière simultanée. Concernant le secrétaire d'État, Booth et ses complices imaginent que cela sera facile. En effet, l'homme d'État est alité à la suite d'un accident survenu il y a quelques semaines. Accident de calèche, résultat sans appel. Trauma crânien, double fracture de la mâchoire et bras cassé. Ah, les chevaux et leur danger. En tous les cas, l'homme est en piteux état. Le complice de Booth se fait déposer devant la maison avec un revolver et un couteau. Il attend le bon moment pour entrer et agir. Il sonne. Le majordome ouvre. Il est 22h. Prétendant venir déposer un nouveau médicament qu'il doit remettre en main propre au blessé et lui montrer comment le prendre, il entre dans la maison sans problème. Direction le troisième niveau. Il est accueilli en haut des marches par le fils de l'accidenté, secrétaire d'État assistant. Méfiant et intelligent, il y conduit ce soi-disant pharmacien en prétextant que son père dort. Moment choisi par sa sœur pour sortir de la chambre du paternel en clamant qu'il est réveillé. Le tueur sait donc maintenant où se trouve sa cible. Ni une ni deux, il recule 4 à 4 dans l'escalier, se saisit de son arme, remonte aussi vite, pointe le revolver en direction de la tête du fils du secrétaire d'État qui ne comprend rien et tire. Mais pas de bol. L'arme s'enraye. Le tueur ne se démonte pas et frappe à la tête le fils, pourtant force de la nature, avec la crosse. Au cinquième coup, ce dernier s'effondre, assommé. Perturbé par le fait que son pistolet n'a pas fonctionné, l'homme de main s'avance en direction de la porte de la chambre. La sœur, qui se demande bien ce que c'est que ce tapage en cours, sort dans le couloir et remarque que son frère est au sol, ensanglanté. Elle hurle. Mais l'intrus ne la malmène pas. Il la dépasse simplement, la pousse et entre dans la chambre. Il se rue sur le blessé, le poignarde au visage et au cou. Le secrétaire d'État aura cependant la vie sauve, car il est équipé d'une attelle qui amortit une partie des coups. Il gardera néanmoins une cicatrice à la joue. La suite des événements est digne d'un Quentin Tarantino. Deux hommes, dont un sergent de l'armée, sont au chevet du blessé. L'autre homme est son deuxième fils. Le secrétaire d'État, touché, gémit et roule par terre, hors de portée de l'homme venu pour le tuer. Les deux autres tentent de contenir le forcené, mais il les poignarde. La fille, qui tente de lui sauter dans le dos, est aussi victime de coups de poignard. Aucun d'eux ne meurt. Son fils, toujours debout malgré les coups, s'empare du revolver. Face à cet évident déséquilibre des forces, le coupable du méfait s'enfuit au triple galop dans l'escalier. Il ouvre la porte d'entrée, jusqu'alors immaculée, et y laisse une traînée de sang de l'homme d'État. Là, devant la porte, se tient un pauvre messager venu apporter un télégramme de la présidence. Pas de chance pour lui. C'est le poignard qu'il rencontre. Le malfrat s'enfuit dans la nuit en hurlant « Je suis fou, je suis fou !» Il détache son cheval de l'arbre et s'enfuit à bride abattue dans la nuit en hurlant comme un damné. Échec de la première tentative, donc. Spectaculaire, certes, mais tout le monde dans la maison est vivant. Et ça, c'est un miracle. De l'autre côté de la Maison Blanche, le vice-président est la prochaine cible. Le deuxième assassin, lui, doit se présenter à 22h15 et abattre la deuxième figure de la nation. Il est installé dans la chambre, juste au-dessus de celle de sa cible. Un jeu d'enfant en apparence. Il rentre à l'hôtel à 21h45, s'installe au bar. Dans son manteau, même armement, un revolver et un couteau. Il fait mine de se renseigner sur les habitudes de sa cible auprès du barman qu'il connaît. Et puis, il boit, un peu, beaucoup, encore un verre, puis tout compte fait deux, puis cinq, puis dix, et le voilà ivre-mort au pire moment et jeté dehors. Ce qu'il va faire ? Errer dans les rues de Washington et finalement prendre à 2h du matin une chambre dans un autre hôtel attenant. Il s'y endort. Oui, vous avez bien entendu. Ainsi avorte la tentative de meurtre de Johnson et tout espoir de voir le régime chanceler si maintenant Bush, de son côté, réussit son coup. Un blessé mais toujours en vie. Un vice-président pas même inquiété. Un criminel qui ronfle sous l'effet du whisky bon marché et un autre en fuite hurlant à qui veut bien entendre qu'il est fou à pleine vitesse sur un canasson. Je vous laisse imaginer le tableau. Booth est très loin de tout ça. Lui, il est concentré sur sa mission. Que se passe-t-il alors derrière cette tenture à 22h15 ce 14 avril ? Lincoln est-il mort ? Ou Booth est-il aussi peu doué que ses comparses ? Patience. Nous arrivons au dénouement.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, notre heure H vit les dernières heures de l'un des plus célèbres présidents des États-Unis d'Amérique, Abraham Lincoln. Son attentat en cours semble pour le moment être compromis. En effet, alors que le vice-président et un secrétaire d'État sont les cibles complémentaires de la machination, leurs assassins respectifs échouent lamentablement à leur mission. Les trois opérations se déroulent en même temps et Booth n'est même pas au courant que ses comparses n'ont pas réussi. Lui, à 22h15, vient de pénétrer dans la loge présidentielle. Le destin se joue alors qu'il pointe le canon de son pistolet sur la nuque du président. « Nous sommes le 14 avril 1865. Il est 22h15. John Wilkes Booth, plongeant tête la première, arrache la tenture de l'antichambre qui donne sur le balcon où sont Abraham Lincoln, sa femme et leurs invités. Il respire fort. Le poids de la fatalité sur ses épaules le fait hésiter. Il jette un œil à la femme du président, au major qui est là, sa fiancée. Il comprend tout de suite que ce n'est pas le général Grant. Il remarque que le plan a une faille. Il ne sait pas qui est cet homme, là, devant ses yeux. Il ne va donc pas le tuer. Mais la nuque collée contre son canon, elle, il va la faire sauter. Les yeux pleins de rage, la main ferme et sûre, il presse la détente. Hélas pour le président, ce coup-ci, le projectile part du barillet. Il s'enfonce en haut de la colonne vertébrale de cette figure sacrée des États-Unis. Sans un mot, sans aucune plainte, Lincoln s'affaisse dans son fauteuil. Comme prévu, le brouhaha de la salle a couvert le bruit de la détonation. Le président est mortellement touché. Booth n'a pas le temps de savourer son succès que le major se jette sur lui pour l'arrêter. Pour seule récompense de sa bravoure, un violent coup de poignard vient le ralentir. Mais il ne se décourage pas et retente sa chance. Il agrippe le fugitif alors qu'il tente d'enjamber la barricade. Nouveau coup de poignard dans le bras. Cette fois, Booth cherche à sauter sur scène et enjambe le balcon. Au dernier moment, le major attrape le bout de son manteau. Le meurtrier, déséquilibré, fait une chute de 12 pieds en contrebas. Les éperons de sa botte gauche se prennent dans un drapeau et il se fracture le péroné. Il se relève, comme un fou, brandit son couteau et s'écrie à la foule « Sic semper tyrannis !» La célèbre devise latine voulant dire « Ainsi en est-il toujours des tyrans ?» Et dans un dernier râle, il ajoute « Le Sud est vengé. » Sur le balcon, la femme du président hurle. La foule comprend alors qu'une tragédie est en cours. Charles Lille, un jeune chirurgien militaire en permission, se rue 4 à 4 jusqu'à la loge présidentielle. Le spectacle qu'il y découvre est morbide. Le major saigne abondamment du bras et, sans se démonter, le jeune professionnel de santé se presse auprès du président. Ce dernier est avachi sur son siège, soutenu par sa femme. Il respire à peine. Il est paralysé. On l'allonge et bientôt un second médecin présent dans la salle est hissé par la foule jusqu'au balcon. Lille sort un caillot de la plaie après avoir ôté la chemise du président et sa respiration s'améliore. Mais personne n'est dupe. Il se meurt. Les médecins se concertent. Impossible de faire subir au président un voyage en attelage jusqu'à la Maison Blanche. La seule solution est de le transporter dans une maison bourgeoise qui se trouve juste en face du théâtre. Je vous laisse imaginer la stupeur du propriétaire qui ouvre en chemise de nuit et découvre son président qui se vide de son sang sur son perron. Non, j'exagère. En réalité, un homme l'a prévenu et ce voisin attend déjà de l'autre côté de la rue avec une lanterne. Il invite la petite troupe à venir jusqu'à lui. Lincoln est alors installé dans une chambre de cette pension, premier étage. Sitôt déposé sur le lit, le président tombe dans le coma. Une multitude de médecins, ses fils et deux secrétaires d'État l'ont rejoint dans la chambre. Plus rien ne peut être fait pour le président. Mary, sa femme, pleure dans les salons attenants et à 7h22, le matin du 15 avril 1865, il s'éteint. Tous s'agenouille devant la dépouille et, en se relevant, le secrétaire d'État à la guerre, sur le front depuis des années, dit, à mots couverts, « Maintenant, il appartient à l'éternité. Son meurtrier aussi. » Malgré sa fracture, Booth a réussi à se sauver, tout comme son complice, ventre à terre. Il quitte la ville et passe le pont qui mène au Maryland. Moins de 30 minutes après lui, son complice le passe également. Direction la propriété d'un colonel sudiste, Cox. Ils les cachent tous les deux quelques jours, puis son fils leur fournit une petite embarcation pour passer le Potomac. Jusqu'au 26 avril, soit durant 12 jours, leur cavale se passe comme ils l'ont prévu. Cependant, l'armée américaine, et en particulier la cavalerie, n'est pas à sous-estimer. Ils sont débusqués alors qu'ils vivent dans la ferme d'un dénommé Garrett. La fidélité s'arrête souvent lorsque la peur arrive, et Booth est abandonné par son complice, qui se rend aux autorités. Booth, lui, refuse de sortir. Hors de question d'être livré en pâture à la vindicte populaire. C'est alors que le régiment qui est là ne va pas faire dans la dentelle. Après tout, il a tué le président, ce gars. Ils font donc feu sur la grange. Un des leurs se faufile à l'arrière du bâtiment et surprend Booth. C'est ce qu'on appelle le karma. Une balle dans la nuque, lui aussi. Il n'est pas mort. Et on le traîne hors de la grange. Là, un soldat lui donne une gorgée d'eau et Booth l'implore. « Dis à ma mère que je suis mort pour ma patrie !» 2 heures plus tard, sous le porche de la ferme des Garrett, il meurt en prononçant ces mots. Inutile, inutile. De quoi parle-t-il? Eh bien, nous l'ignorons. Sa mort entraîne une enquête qui conduira à de nombreuses arrestations. Tous les conjurés passeront entre les mains de la justice. Nombre d'entre eux seront emprisonnés. Certains parviendront à prendre la fuite, mais tous comprendront alors la puissance de la justice de leur pays. Dans les semaines qui suivent cet assassinat, le Sud sera définitivement vaincu. Au début du XXe siècle, un monument consacré au président est érigé à Washington. Le Lincoln Memorial est un incontournable et près de 5 millions de personnes viennent le voir chaque année. Le 16e président de l'histoire des États-Unis entre dans le panthéon des légendes du pays. 4 années difficiles de pouvoir dans une Amérique divisée sont effacées par cette mort héroïque, romanesque. Il est le premier président américain assassiné. Son aura et la puissance de ce qu'il représente, elles, n'ont pas pris une ride. Il est l'une des 4 figures qui sont gravées sur le mont Rushmore. Sur la pierre résonnent ces paroles, lancées un matin d'hiver à toute une nation. Si l'esclavage n'est pas mauvais, rien n'est mauvais. Il a payé de sa vie sa volonté d'améliorer le sort de certains de ses concitoyens. Sa place dans leur cœur est toujours aujourd'hui au firmament. Le théâtre Ford, lui, n'a jamais ouvert ses portes. Voilà donc pour ce récit que j'ai le plaisir de vous partager aujourd'hui grâce à la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.